au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin.
Cette œuvre de reconstruction politique et économique qui doit être l'honneur de notre génération ne s'accomplira pas sans un rude combat dans lequel doivent être étroitement associées toutes les masses laborieuses du pays et toutes les forces organisées qui ont pour idéal commun de faire cesser l'exploitation de l'homme par l'homme. De cette préoccupation est né le programme du CNR qui sera la base de l'activité de tout gouvernement démocratique.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passé, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Les best-sellers, lorsqu'un livre est arraché soudain aux simples dimensions d'un honorable succès pour atteindre des ventes phénoménales, renseigne toujours précieusement sur la sensibilité collective d'un moment, sur les attentes d'une population, sur ses frustrations et sur ses rêves. Ainsi en va-t-il évidemment de l'essor à proprement parler stupéfiant de la brochure publiée récemment par Stéphane Hessel, brochure intitulée « Indignez-vous ». On parle d'un million d'exemplaires vendus et l'auteur, qui était déjà salué comme un grand résistant et une conscience morale, mais dans des cercles relativement restreints, atteint du coup, à 93 ans, une célébrité nationale. Or, il se trouve que son propos se fonde directement sur un parallèle entre notre temps et celui de la libération, avec une référence explicite au programme du Conseil national de la résistance, le CNR, et aux grandes réformes qu'il a inspirées. Stéphane Hessel aspire à voir renaître un souffle semblable qu'appellerait spécialement à ses yeux un certain nombre de renoncements récents par rapport aux idéaux de 1945. En somme, une concordance des temps, à la fois constatée et espérée, qui était faite pour nous inciter à une interrogation sur l'héritage du CNR aujourd'hui et sur d'éventuels abandons. Claire Andrieux, professeur d'histoire contemporaine à Sciences Po, a beaucoup travaillé et publié sur le programme commun de la résistance. C'est le titre d'un de ses livres. Et elle va nous aider à éclairer cette question et d'abord à restituer l'ambiance de la fin de la guerre et de la libération, cette ambiance que chante Yves Montand.
Ici, j'ai rendez-vous. C'est ma ville, mon ciel, mes rues tendres. Ici, j'ai rendez-vous. Avec la liberté, et pour elle on est prêt à mourir debout. Les murs de Paris chantent, les rues en fête, les vrais poètes et le bonheur. Les murs de Paris chantent, le sang qui coule, l'espoir des foules et leur grand cœur. Et l'histoire dont les leçons enfantent les victoires. Ici j'ai rendez-vous, c'est ma ville, mon ciel, mes rues tendres. Ici j'ai rendez-vous. Avec la liberté, et pour elle on est prêt à mourir debout. Les toits de Paris chantent, tant de fumée, vite en aller, et les beaux jours. Les toits de Paris chantent, les prisons mortes, les âmes fortes qui croient toujours. Et encore au lendemain qui chante dans l'aurore. Ici rendez-vous. C'est ma ville, mon ciel, mes rues tendres. Ici, j'ai rendez-vous avec la liberté, et pour elle, on est prêt à mourir debout.
Claire Andrieux, bonjour.
Bonjour.
Yves Montand interprétait ici « Rendez-vous avec la liberté », une chanson de 1946, dans l'immédiat après-guerre, l'immédiat après-libération, une chanson de Philippe Gérard et Renaud, J. Renaud. « Rendez-vous avec la liberté » et pour elle, on est prêt à mourir.
Oui, cette chanson m'évoque tout à fait la grande journée du 26 août 1944 de la libération de Paris. Elle exprime toute la joie, la liesse, l'enthousiasme, l'euphorie de la liberté retrouvée. Seulement, cette journée de libération, en fait, tous les peuples occupés et libérés en 1944 ou 1945 l'ont connue. Mais en France, il y a eu cette spécificité que ce n'était pas seulement une libération politique qui était fêtée, mais aussi l'aube d'une libération sociale. Et le général de Gaulle lui-même l'avait dit lors de l'un de ses discours, la libération doit être nationale, mais elle doit être aussi sociale. Et ce programme du CNR en est le symbole.
La résistance et le programme de la résistance dont nous allons parler s'étant défini à la fois contre Vichy et contre l'Allemand, et puis aussi contre la Troisième République décadente.
Ce qui nous différencie par exemple d'un pays tout à fait voisin qui est celui de la Belgique, où comme le gouvernement, du moins le représentant du gouvernement s'était exilé à Londres, les Belges n'ont pas connu ce mouvement de réforme extrêmement profond qui a existé en France, et le symbole de cette situation, c'est que le Parlement belge de 1940 a été rappelé en 1944, ce qui en France aurait été impensable qu'on rappelle en 1944 le Parlement qui avait voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain.
Même si certains sénateurs en avaient rêvé.
Même si certains sénateurs en avaient rêvé, même Édouard Herriot aussi avait pensé à cette reprise à l'identique du passé, mais en France, la situation était très différente.
Il y a un texte de Sartre qui est assez représentatif, qui date de l'immédiate après-guerre, où il écrit « Dans l'ombre et dans le sang, la plus forte des républiques s'est constituée. Cette république sans institution, sans armée, sans police, il fallait que chaque Français la conquière et l'affirme à chaque instant contre le nazisme. Nous voici à présent, c'est toujours Sartre qui parle, au bord d'une autre république. Ne peut-on souhaiter qu'elle conserve au grand jour les austères vertus de la République du silence et de la nuit. » Voilà exactement le défi devant lequel est placé le personnel politique de l'après-libération, lui-même issu de la résistance.
Oui, et c'est un défi non seulement politique, mais c'est un défi également en termes de sociologie de l'action politique. L'action résistante n'est pas l'action politique dans une démocratie représentative. Et il y a donc par force une certaine inadaptation du monde résistant à la vie politique dans une démocratie représentative et un certain renouvellement. Il y a une continuité, mais il y a aussi largement un renouvellement. Et là, ça a été l'une des difficultés du monde résistant, c'est qu'il était pour partie inadapté à la poursuite de la vie politique à l'air libre.
Je vais vous faire entendre un propos de Jean-Pierre Vernant, vous savez, le très grand spécialiste de l'Antiquité grecque, professeur au Collège de France, admirable connaisseur de la démocratie athénienne en particulier. Jean-Pierre Vernant, qui a été aussi un grand résistant, il était chef des FFI en Haute-Garonne. Jean-Pierre Vernant s'exprime de la sorte en 2004, en réfléchissant à ce qu'il y avait de magnifique et en même temps peut-être d'impossible à perpétuer, c'est-à-dire l'unité.
Mais ce qui s'était forgé, c'était l'idée d'abord qu'il fallait chasser les Allemands, qu'il fallait chasser Vichy, et qu'il n'était pas pensable, inimaginable, nous étions naïfs, qu'après cela, après les épreuves, après l'effort, après le fait qu'on s'était tous frottés les uns avec les autres, que ceux qui étaient plus les laïcs ou athées avaient découvert chez les catholiques, en dépit des divergences, qu'il y avait des choses communes, que des gens très conservateurs ou royalistes qui avaient tout de suite déclaré non aux Allemands, non aux nazis, retrouvaient des gens qui étaient des communistes ou des anciens communistes. Tout ça faisait que, à nos yeux, On ne pouvait pas imaginer une seconde que la France d'après serait la même que celle non seulement de Vichy, ça va de soi, mais la même que celle de la Troisième République. Et donc, il fallait faire un programme pratique, de grande, une volonté politique qui corresponde à cette certitude que nous avions que, non pas le monde, mais la France allait changer, que l'Europe allait changer, qu'on entrait dans une espèce d'ère nouvelle.
Jean-Pierre Vernant s'exprimait ici dans le cadre de l'émission de Daniel Mermet, là-bas, là-bas si j'y suis. On voit bien ce qu'il y a d'utopie revendiquée comme telle, après coup. Et ce qui est d'ailleurs peut-être insupportable à un certain nombre de nos réalistes d'aujourd'hui. Je crois qu'en début de notre conversation sur l'héritage de la résistance et du programme du CNR, Claire André, il faut évoquer les très récentes controverses qui sont nées. Je pense en particulier à l'article retentissant d'un ancien vice-président du MEDEF, un grand patron des assurances, Denis Kessler, qui avait fait un article qui a été très observé, évidemment, en challenge en 2007, où il s'écriait, c'était le titre, « Adieu, 1945, raccrochons notre pays au monde. Il s'agit aujourd'hui de sortir de 1945 et de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance. » Les choses sont clairement dites.
Oui, ce texte est aussi brillant que polémique et repose sur un certain nombre d'approximations qui permettent d'arriver à ces conclusions.
Bonne occasion de le dire et de l'éclairer.
Voilà, je voudrais par exemple commencer par revenir sur cette question de l'unité de la résistance. C'est un fait majeur qui doit s'apprécier de manière comparative, c'est-à-dire cherchons dans les autres pays de l'Europe occupée comment les résistants ont pu s'unir. Eh bien, la France est l'exception, en ce sens que tous les résistants de toutes les tendances ont réussi à s'unir dans ce Conseil national de la résistance, qui est donc un organisme tout à fait atypique, qui réunit à la fois l'extrême-gauche de l'époque, c'est-à-dire le Parti communiste, et le centre, et les droites.
Celles des droites qui ont été résistantes, évidemment.
Celles des droites qui ont été résistantes.
Des gens comme Charles Balin, un ami du colonel de la Roque, ou Louis Marin.
Louis Marin de la Fédération républicaine, Joseph Laniel de l'Alliance démocratique. Ce sont des partis qui ont aujourd'hui disparu, mais qui représentaient les droites à l'époque. Et cette union a pu se faire pour un certain nombre de raisons, mais le fait est qu'elle a eu lieu, que ce n'était pas une union factice. Ce Conseil national de la résistance n'était pas un village Potemkin. Et le programme qu'il a adopté n'a pas été adopté à l'arraché ou par un geste d'autorité de son président, qui était à l'époque Georges Bidault, mais à la suite de très longues négociations, puisque ces négociations ont duré 9 mois dans la clandestinité, ce qui était très compliqué à organiser. Et on peut affirmer que ce programme était représentatif de l'opinion publique française de l'époque.
Donc quand Denis Kessler affirme qu'il faut jeter le programme par-dessus les moulins, vous pensez qu'il estime que cette unité-là ou que cette sensibilité collective s'est évanouie ?
D'abord, il estime qu'à l'époque, ce programme a été l'œuvre d'un compromis entre gaullistes et communistes. Ce qui n'est pas le cas, c'est beaucoup plus complexe. Donc c'est véritablement une œuvre négociée.
Juste part, mise au point.
Et deuxièmement, alors c'est un fait nouveau que ce programme revienne dans l'actualité. Ce programme a été largement oublié, on peut dire, de 1947 aux années 90. Donc là, il y a un phénomène de mémoire. Quelle est l'histoire de ce programme ? Je crois que l'étincelle, enfin l'initiative toute première, elle vient d'une personnalité qui était Léon Blum, qui est en prison, comme on sait, du fait du régime de Vichy.
La famille de Pétain le garde en prison après avoir interrompu le procès où il avait dominé ses juges de sa haute personnalité. On n'a pas pu terminer le procès, voilà. Mais arbitrairement, on l'a maintenu dans sa geôle.
C'est ça. Le procès a été interrompu, d'ailleurs aussi parce que les Allemands trouvaient que ça faisait une publicité aux hommes de la Troisième République. Donc le procès est interrompu en avril 1942, il est toujours en prison et il écrit, il a moyen de communiquer avec l'extérieur. Et donc il émet cette idée qu'il faudrait reprendre le programme du Front populaire. Que c'était une bonne idée, bien que objectivement le Front populaire n'ait pas vraiment duré et pas vraiment réussi à long terme, ou seulement partiellement. Cette idée, il réussit à la communiquer également dans un courrier adressé au général de Gaulle. Finalement, l'idée se répand alors à l'origine dans les milieux socialistes, logiquement. Et les journaux clandestins du Parti socialiste, le journal s'appelle Le Populaire, qui lance l'idée en janvier 1943. Ensuite, André Philippe, qui est socialiste et qui arrive à Londres, reprend l'idée et l'envoie au CNR qui, entre-temps, s'est constitué. Tout cela, évidemment, par relation clandestine.
Et ce premier texte crée des réactions assez vives, mais fournit un bon point de départ aux discussions.
C'est ça. En fait, il est rejeté, mais c'est un bon point de départ. Il est rejeté parce que les communistes craignent que le principe, par exemple, des nationalisations divise les résistants. Et de l'autre côté, les droites, évidemment, ne veulent pas de nationalisation.
Mais c'est sont au cœur du programme socialiste de ce moment-là.
Voilà. Et ensuite, par une série d'échanges, alors la CGT fait des propositions, le Front National, donc cet organisme satellite du Parti communiste, mais ouvert aux non-communistes, fait à son tour une proposition, et finalement c'est de cette proposition de novembre 1943 que la discussion devient intense, à partir de là. Et jusqu'à une adoption à l'unanimité en mars 1944.
Donc Jean-Pierre Vernon n'a pas tort de parler, au moins pour un temps, d'un certain unanimisme.
Il a raison, c'est exceptionnel dans l'histoire de France, ça ne s'était pas produit et ça ne s'est pas reproduit, mais c'est un fait qui est évidemment lié aux circonstances exceptionnelles qui sont celles d'un pays occupé par une puissance étrangère.
L'unité est en effet sans précédent. En revanche, la notion même de programme mérite qu'on s'y attarde un instant, y compris quand on réfléchit à l'écho entre 1945 et aujourd'hui. Ce n'est pas la résistance qui invente l'idée de programme. La plupart des programmes ont été élaborés d'ailleurs à gauche depuis le 19e siècle.
Si on réfléchit à cette notion de programme politique, on ne fait un programme que si on a des électeurs. Sinon, il n'y a pas besoin de programme. Louis XVI n'avait pas de programme. Donc, les tout premiers programmes, on les aperçoit sous la monarchie censitaire au début du 19e. Mais les vrais programmes politiques au sens moderne du terme, on les trouve sous la Deuxième République, sous la Seconde République, qui, comme on sait, avait institué le suffrage universel.
C'est la fameuse déclaration des représentants de la Réunion de la Montagne, allusion aux montagnards de la Première Révolution, la Grande Révolution, déclaration aux électeurs.
En 1849, cette déclaration est intéressante parce que c'est un petit programme commun avant l'époque, avant que le terme soit forgé, parce qu'elle réunit les démocrates de l'époque et les socialistes de l'époque.
On appelle ça les démocsoc.
Voilà, les démocsoc, avec par exemple le Dru-Rollin, Félix Piat. Si on cherche des programmes communs dans l'histoire de France, finalement on s'aperçoit qu'ils se trouvent à gauche. Ce n'est pas vraiment étonnant dans la mesure où la gauche a le souci d'éduquer le peuple en son ensemble. Et le programme, c'est un moyen de communication avec tous les électeurs. Il y a celui de 1849 et puis ensuite on trouve celui de 1935. C'est l'histoire du Front populaire. Premièrement, il y a eu cette menace tout de même des ligues qui ont tenté de prendre d'assaut le Parlement d'une façon ou d'une autre le 6 février 1934, donc il y a une réaction contre. Deuxièmement, c'est aussi le moment où l'Internationale communiste prend conscience du danger que représente le fascisme et donne consigne au Parti communiste de s'allier. Donc là, on est en 1934, avec les socialistes, après
tournant,
l'échec de 1933.
C'est un tournant organisé par Staline à Moscou. On passe du superbe isolement, en effet, à l'alliance. On tend la main, notamment aux catholiques et naturellement aux radicaux.
Voilà. Et donc, le programme de Front populaire est conçu dans ce contexte, avec socialistes, radicaux et communistes.
Et plus tard, il y aura en 1972 le programme commun de gouvernement qui réunira les gauches communistes, socialistes et radicales, comme on se le rappelle.
Mais ce qui est intéressant, voyez-vous, c'est qu'en 1972, personne n'évoque le programme du CNR. Et même dans le préambule que le Parti communiste ajoute dans la publication propre qu'il fait du programme commun de gouvernement, il n'évoque pas le programme du CNR. Il présente ce programme commun de 1972 comme une première dans l'histoire de France. Donc là, il y a eu un véritable oubli du passé, des années 50 aux années 90.
Ce qui pose à l'historien et aux citoyens une question intéressante. Pourquoi cet oubli, pourquoi cette résurgence aujourd'hui qui amène à ce que nous en discutions à cette table?
Premièrement, il y a un premier oubli qui tient au déclenchement de la guerre froide et que là, donc, l'évocation d'une alliance avec le Parti communiste devient difficile pour les non-communistes et pour les communistes eux-mêmes. Donc là, il y a un silence qui se fait sur cette alliance qui est en quelque sorte rejetée des deux côtés. Il y a aussi un silence qui tient au fait que ce programme n'est pas vraiment contesté en France, du moins. Parce que justement, c'est la conséquence de cette unité, c'est que la forme d'État-providence définie par le programme commun de la résistance n'est pas mise en cause en France, sinon à la marge et progressivement. Par exemple, par contraste avec ce qui se passe en Angleterre, où des dénationalisations sont décidées dès que les conservateurs reviennent au pouvoir. En France, la droite a géré l'héritage du programme commun de la résistance.
Donc au fond, vous expliquez ce silence, ce long silence sur le programme du CNR par le phénomène de discrétion des choses évidentes.
Voilà. Et puis aussi, alors c'est le dernier facteur, par le fait que la domination du principe libéral en économie n'est dans notre histoire revenue que depuis les années 80-90.
La vague régano-thatchérienne, voilà. D'ailleurs en partie brisée dans le cas de la France.
Atténuée. Oui, parce que justement, nous avons cet ancrage dans une culture de l'État-providence qui, normalement, limite ou devrait limiter les excès du libéralisme économique. Mais du fait de cette nouvelle domination idéologique, tout d'un coup, le programme du CNR reprend du sens.
Et d'ailleurs, les attaques reprennent aussi de leur force, ce qui est encore une sorte de dommage. On n'aurait pas imaginé dans ces années-là les attaques de Denis Kessler dont je vous parlais, disant que l'architecture singulière de 1946 est désormais complètement dépassée, je cite, inefficace et datée, et serait responsable du décrochage de notre nation par rapport à pratiquement tous ses partenaires. Fin de citation de M. Kessler.
Oui, c'est une citation, je pense, qui se veut polémique et qui me rappelle la lecture d'un petit bulletin proche de l'extrême droite de 1948, moment de déclenchement de la guerre froide, qui disait... En fait, un peu autrement, là, tout de même la même chose, en disant que ce programme du Conseil national de la résistance était sorti de la guerre comme un lapin d'un chapeau et qu'il avait permis de conduire à l'esbrouf la subversion économique et politique en France. En 1948, un point de vue radicalement hostile sur le programme du CNR ne pouvait s'exprimer que dans une toute petite frange.
Et ici, c'est un des plus vaillants des résistants qui va s'exprimer, Eugène Claudius Petit. Un des fondateurs de l'Union démocratique et socialiste de la résistance, l'UDSR, qui va être aussi le parti de François Mitterrand. Il s'exprime à l'occasion de la campagne électorale pour le référendum en octobre 1945.
Cette œuvre de reconstruction politique et économique, qui doit être l'honneur de notre génération, ne s'accomplira pas sans un rude combat, dans lequel doivent être étroitement associées toutes les masses laborieuses du pays et toutes les forces organisées, qui ont pour idéal commun de faire cesser l'exploitation de l'homme par l'homme. De cette préoccupation est né le programme du CNR qui sera à la base de l'activité de tout gouvernement démocratique. À l'avec du jour où le peuple va pouvoir enfin se prononcer, pourquoi rencontrons-nous des dévoués, des obscurs, des ardents, des humbles de la résistance, découragés et ne cherchant plus à entraîner le pays vers la grande aventure de la libération totale ? Le courage militaire était donc plus facile, le courage clandestin plus léger. À ce moment-là, on osait tout mettre en question, sa liberté, sa vie, tous ses biens, et jusqu'à sa famille, pourvu que triomphe la liberté. Maintenant, on craint de compromettre son avenir, son commerce, la situation que l'on a dans la cité semble imposer une sorte de neutralité. Comme si la bataille que nous avons à mener maintenant n'était pas la simple continuation de la bataille que nous avons menée et gagnée. Comme si nous pouvions rester neutres, alors que nous devons dire que la France veut être une grande république, une démocratie efficace, capable de bâtir le socialisme dans l'Occident de l'Europe. Comme si nous pouvions rester neutres devant l'implacable et certaine volonté de toutes les puissances d'argent de revenir à un état passé, dans lequel des gages savamment camouflés nous feraient retrouver une certaine facilité de vie. Alors que nous avons cru, ellement appris, qu'il n'y avait pas de démocratie vraie sans socialisme, et que nous croyons qu'il n'y a pas de vrai socialisme sans démocratie. Au moment de la libération, tout un peuple s'est laissé entraîner par cette poignée de résistants dans une insurrection libératrice. Tous ceux qui sont tombés, tous ceux qui ont fait le voyage sans retour, ne sont point morts pour que reblanchissent les sépulcres. À l'appel des hommes de la résistance, en plein accord avec le Parti socialiste, et le parti de la Jeune République. Toutes les citoyennes et tous les citoyens doivent répondre et comprendre que leur devoir n'est pas fini, que les puissances d'argent sont toujours là, que les influences étrangères guettent la France de toutes parts et qu'il nous faut travailler, encore travailler, durement et longtemps pour la libération de l'homme et d'abord pour libérer la démocratie de tout ce qui l'entrave.
On trouve ici, Claire Andrieux, des thématiques qui sont très, très prégnantes dans cette atmosphère de l'après-libération. L'idée que le courage de la nuit doit se poursuivre dans le courage du plein jour.
Oui, alors je dois dire que Claudius Petit est vraiment l'homme qui peut tenir ce discours parce qu'il fait partie de cette minorité des résistants qui sont devenus des hommes politiques ou des femmes politiques, mais les femmes politiques à l'époque il y en avait très peu. Il peut en effet mettre en parallèle le courage de la clandestinité avec le courage de l'homme politique qui existe également. Il semble qu'il regrette que les résistants soient peu nombreux finalement autour de lui et il est exact que certains résistants avaient pour idéal de créer un grand parti de la résistance et Claudius Petit était dans cet esprit-là. Et en fait, il a réussi avec d'autres à créer l'Union démocratique et socialiste de la résistance, mais qui était un tout petit parti, qui a duré jusqu'en 1965, mais qui n'a jamais pris une importance majeure. Et ce qui est frappant aussi dans son discours, c'est le vocabulaire qu'il emploie, qui aujourd'hui nous paraît peut-être un peu exalté et un peu emphatique.
Les puissances d'argent, vous croyez que c'est exalté aujourd'hui, comme expression ?
Comme expression, c'est pas. Il me semble que c'est un peu désuet aujourd'hui.
Oui.
Ce n'est pas le fait qui a disparu, c'est les expressions. L'exploitation de l'homme par l'homme, la libération de l'homme. On se place là au cœur du problème politique, de l'organisation de la cité. Il s'exprime en termes de justice fondamentale, pas de démocratie vraie sans socialisme, pas de socialisme sans vraie démocratie. Et je crois que ça exprime certainement le sentiment des politiques de l'époque, d'être dans un moment refondateur de la République. Et je crois que si on cherche dans l'histoire un moment comparable, dans l'histoire proche, je me situerais du côté des républicains des années 1880, qui, je pense, ont eu également le sentiment de recréer la cité en France avec un ensemble de lois libérales et également de lois sociales, comme en 1884, la loi qui permet de créer des syndicats professionnels.
Du côté du libéralisme, la loi sur la presse.
La loi sur la presse, la loi sur la liberté de réunion, la loi sur l'élection des maires.
Les lois de Jules Ferry.
C'est ça,
l'école fondant la République.
L'école laïque obligatoire et gratuite. Mais je crois, si on pouvait peser les différents éléments dans une balance, que 1945 est une date encore plus importante que la décennie 1880. C'est vraiment une refondation.
Où la glace fond et on peut mettre l'eau, si je me permets cette image, dans des formes nouvelles.
Oui. Tout à fait.
Avant que les choses se fichent à nouveau. D'ailleurs, ça conduirait peut-être, vous parlez de vocabulaire, à une réflexion sur le mot même de résistance, qui est bien antérieur à 1940 et qui aujourd'hui paraît retrouver un lustre perdu.
C'est vrai, ce mot de résistance, par exemple, il était déjà employé par les habitants des départements du Nord qui ont été occupés pendant la guerre de 1914-18. Mais cette résistance-là, en fait, ne s'est pas imposée dans la mémoire collective nationale parce qu'elle était, en fait, propre à une certaine région. Donc le mot n'a pas fait florès à ce moment-là. Si on remonte encore dans le temps, il y a la résistance des francs-tireurs, les francs-tireurs de 1870.
Et à l'arrière des lignes allemandes.
Voilà, à l'arrière des lignes allemandes. Cette résistance des francs-tireurs, qui a d'ailleurs été très très bien évoquée par Maupassant dans plusieurs nouvelles, cette résistance est restée connue par ce terme de francs-tireurs. C'est un symbole, mais en termes d'historiographie, elle est beaucoup moins bien connue. Néanmoins, dans les journaux clandestins, les francs-tireurs de 1870 sont souvent évoqués. Comme d'ailleurs les va-nu-pieds de l'an 2. Et c'est peut-être une des spécificités de la résistance française d'avoir fait fond sur la culture historique du français moyen.
Une autre chose frappe quand on reprend les documents de l'époque, les archives radiophoniques en particulier, c'est qu'il y a tout de même un fond d'optimisme, l'idée d'un volontarisme. On va s'en sortir. Sur le mode plus léger, c'est ce qu'exprime cette chanson de 1946, une chanson de Georges Gosset et Saint-Granier sur une musique de Louis Ferrari. Et hop, on s'en sortira.
Nous avons passé par de durs moments, nous avons encore des embêtements, et dans le pays, bien des gens vous diront, ça ne tourne pas rond. Moi, pour un peu éclairer leur ciel lourd, je dis que Paris, c'est pas fait en un jour, et simplement, sans façon, je viens chanter cette chanson.
Et hop, on s'en sortira.
On s'en tirera, comme toujours en France. Ça vient tout doucement, mais ça vient sûrement. Nous pouvons convoquer l'espérance.
Et là, on en sortira.
Tout remarchera à brève échéance. Il y aura du bonheur et le printemps reviendra.
Et là, on en sortira.
Les petits oiseaux n'ont pas tout ce qu'il leur faut. Ils chantent tout de même, ils sont gais les moineaux. En attendant le soleil et l'été, il faut les imiter. On reverra les pommes frites et le bifteck. Et c'est même sûr qu'il y aura du beurre avec. Sans compter que pour l'amour, on en a déjà tous les jours.
Et là, on en sortira.
On s'en tirera. Comme toujours en France, ça vient tout doucement, mais ça vient sûrement. Nous pouvons convoquer l'espérance.
Et là, on en sortira.
Tout remarchera à brève échéance. Il y aura du bonheur et le printemps reviendra.
Et là, on s'en sortira.
Hop, on s'en sortira. Claire Andrieux, maintenant, il est probablement temps que nous en venions au contenu même, de la manière dont on s'en est sorti, c'est-à-dire du contenu de ce programme du Conseil national de la Résistance qui est l'objet de notre émission. Quelles sont les grandes composantes de ce programme?
Il y a d'abord une première partie qui est la plus longue et qui ne concernait que la libération proprement dite, les modalités de la libération.
Et celle donc, qui est la plus dépassée d'une certaine façon.
Voilà, celle-là effectivement n'a plus beaucoup d'intérêt, elle a un intérêt historique. La deuxième partie présentait effectivement un programme d'action politique, économique et sociale. Ce qui était le plus novateur, c'était la volonté d'instaurer ce que le programme appelle la démocratie économique et sociale. C'était
avec
cela qui était nouveau.
Avec l'idée qu'on avait gagné la démocratie politique au long des batailles du 19e siècle, mais que maintenant, il fallait aller au-delà, retrouver peut-être l'inspiration ultime de la période de la Convention en 1794.
Peut-être. Aussi, il faut signaler que, bien que le retour aux libertés soit ardemment souhaité et transcrit dans le programme oubliait de demander que le droit de vote fût attribué aux femmes. Et ce n'était pas un oubli involontaire.
Alors bon, on va voir surgir les radicaux.
Et voilà. Et les radicaux s'étaient opposés à ce que le droit de vote soit inscrit dans le programme.
Il y a un autre manque qui frappe rétrospectivement, il faut être balancé, c'est le manque d'allusion à la laïcité. Et là, ce sont les démocrates chrétiens qui s'y sont opposés.
C'est vrai, j'ai oublié cela, que la laïcité n'est pas mentionnée.
Vous avez une mémoire sélective, Pierre-Andrieux? Serait-ce possible? À une période, la nôtre, où la laïcité a quand même subi un certain nombre de coups, au moins de canifs, au plus haut niveau de l'État, il ne me paraît pas inutile de le rappeler que certains ont regretté en ce temps-là que la laïcité ne fût pas mieux célébrée.
Alors, dans le domaine économique et social, ce qui correspondait à l'esprit du temps et que nous appelons aujourd'hui les nationalisations était intitulé « Retour à la nation des moyens de production » ou des grands moyens de production. Ce thème de accaparement par la nation, c'est-à-dire par l'État, des grands moyens de production n'était pas une innovation de 1944 puisque dès les programmes d'Ebocsoc de la Seconde République, c'est déjà évoqué.
En revanche, on est frappé du fait que ce n'était pas très présent en 1936, y compris dans la pensée communiste.
Non, c'était pas très présent en 1936 parce que le programme de Front populaire était relativement prudent. Et puis les socialistes et les communistes négociaient entre eux pour la première fois. Il avait les radicaux avec eux, il fallait conserver les radicaux qui étaient tout à fait libéraux dans le domaine économique. Donc ce programme, en fait, on peut être présenté comme une espèce de propédeutique vers le programme de la résistance.
Mais si je vous entraîne sur un propos plus général, avant de revenir sur le cas des nationalisations, il faut observer que, par conséquent, les rappels de 1936 en 1945 peuvent atteindre certaines limites. Et pourtant, un homme comme Stéphane Hessel, bien sûr, il faut que nous fassions entendre sa voix dans cette émission, quand il marque cette continuité, pourrait être éventuellement légèrement contredit.
N'oublions pas ce qu'a été le Front populaire. Et le Front populaire a été un moment où la gauche unie, communiste, socialiste, radicaux, avait essayé de faire progresser la France dans le domaine social. On avait été bloqué, on avait été empêché, ça n'avait pas été aussi loin que cette génération à laquelle j'appartiens l'aurait souhaité, mais il y avait quand même des conquêtes, et notamment des conquêtes de législation sociale qu'il fallait renouveler, reprendre et remettre à jour. Il fallait donc trouver, et ça a été le rôle très important de ceux qui ont préparé le programme du CNR, c'est de donner voix à tous ceux qui pensaient en avant. S'appuyer sur l'ensemble du Conseil national où il y avait les Louis Marin, les royalistes, etc. Mais c'est pas sur eux que l'on comptait pour faire le mouvement en avant. On comptait sur les mouvements de résistance et on comptait sur les partis qui avaient pris fermement position dans l'esprit du Front populaire et contre Vichy.
Il y a vraiment des royalistes qui sont là ?
Non, pas de royaliste en tant que tel au Conseil national de la Résistance, mais il se trouve que Louis Marin était représenté par Jacques de Bubridel, lequel, dans sa jeunesse, avait appartenu à un mouvement de jeunesse royaliste.
Oui, on l'appelait Ubu débridé. Donc c'est un personnage, disons, d'un tempérament un peu volcanique.
Oui, et atypique.
Donc, ce qui est important, c'est, j'ai peut-être tort de dire que Stéphane Hessel s'inscrit trop directement dans la continuité de 36, il est aussi sensible, bien sûr, aux différences, et ça nous ramène aux nationalisations.
Alors les nationalisations pratiquées entre 44 en fait et 48 date ultime sont très importantes. Il y a une quinzaine de mesures et on peut dire que les relations entre l'État et les forces économiques sont profondément modifiées. À l'époque, on parlait de réforme de structure et cela paraît exact. Par exemple, les quatre plus grandes banques de l'époque se trouvent nationalisées par une loi du 2 décembre 1945. Également les 9 plus grandes sociétés d'assurance, les houillères, toutes les houillères.
C'est ça qui crée le chagrin de M. Kessler, qui est un grand Manitou des assurances françaises.
Sait-on jamais. Les houillères se trouvent nationalisées, et puis également tout ce qui est électricité et gaz. Il y a là la création d'un système nouveau, économico-politique, qui, du moins dans son inspiration, veut faire en sorte que la conduite des grands intérêts économiques soit une conduite pratiquée dans un esprit national. Et c'est pourquoi quelqu'un comme le général de Gaulle n'était pas du tout gêné par les nationalisations. Il avait d'ailleurs lui-même en 1938, ou avant 1938, contribué à la préparation de la loi sur l'organisation de la nation en temps de guerre. Et en tant que militaire, il lui paraissait absolument naturel que l'intendance suive.
Oui, il y a des propos du général de Gaulle que l'on peut peut-être aujourd'hui faire entendre, faire sonner aux oreilles du parti qui s'affirme comme le plus post-gaulliste, je veux dire l'UMP. Écoutez cela pour résumer les principes que la France entend désormais placer à la base de son activité nationale. Nous dirons que tout en assurant à tous le maximum possible de liberté et tout en favorisant en toute matière la liberté d'entreprise, la France veut faire en sorte que l'intérêt particulier soit toujours contraint de céder à l'intérêt général, et ceci, écoutez bien, que les grandes sources de la richesse commune soient exploitées et dirigées non point pour le profit de quelques-uns, mais pour l'avantage de tous. On ne peut pas soutenir plus clairement le principe des nationalisations auquel son gouvernement va présider.
De Gaulle, comme on sait, est un homme politique d'un genre un peu particulier.
On peut le dire.
Il n'a pas voulu assumer ce programme du Conseil national de la Résistance. Il ne l'a jamais signé, il ne s'en est jamais réclamé.
Mais il s'en est inspiré.
Mais il s'en est inspiré. Et on peut dire que son gouvernement, donc de la libération en août 44 jusqu'à sa démission en janvier 46, a mis en œuvre la plupart des mesures qui étaient dans le programme. Et celles qui n'ont pas été mises en œuvre du temps de Gaulle au gouvernement étaient en fait déjà en préparation sous son gouvernement. Elles ont été votées au printemps 1946.
Donc il n'était pas illégitime au cœur des débats récents à propos de la crise, lorsque le gouvernement a aidé considérablement les banques, dont certaines s'étaient laissées aller à quelques dévergondages. Lorsque ce gouvernement a aidé les banques, on a posé la question, non pas des nationalisations, mais de l'entrée plus ou moins claire de la puissance publique à l'intérieur des organes dirigeants de ces banques. C'est aussi une manière de faire ressurgir le programme du CNR.
Oui, c'est aussi une façon de faire appel à des principes républicains. Le pouvoir politique l'emporte sur le pouvoir militaire, le pouvoir politique doit l'emporter sur le pouvoir économique.
Je ne vous le fais pas dire.
De façon à faire vivre la nation dans un contexte supportable. En ce qui concerne la libération proprement dite, on peut estimer très sérieusement que le rapport des forces entre l'économique et le politique a été modifié. Cela a duré jusqu'en 1948, c'est la date à laquelle les dernières nationalisations ont été adoptées. Mais ensuite, le consensus sorti de la guerre s'est défait. Et là, le train de réforme a pris fin en 1948.
Le programme du CNR ne se borne pas seulement évidemment à la question des nationalisations. Il y a aussi l'idée de l'émergence d'une démocratie sociale qui est marquée par l'ère du temps, par l'ère Beveridge en Angleterre, qui influence beaucoup les législateurs de 1945 et 46.
Le programme du CNR est adopté en mars 44 et certains des membres du CNR ont connaissance, s'ils ne l'ont pas lu, ils en ont connaissance, du plan Beveridge qui a été publié en 42 à Londres. Et cette notion de sécurité sociale était tout à fait dans l'air du temps, même d'une certaine façon, le New Deal avec Roosevelt avait déjà créé une sécurité sociale en 1935.
Beveridge était, n'est-ce pas, un ministre libéral dans le gouvernement de coalition de Winston Churchill pendant la guerre.
Et qui avait rédigé ce rapport qui est devenu célèbre.
Et en même temps, il y a une différence, c'est-à-dire que Beveridge construit son édifice essentiellement sur des bases fiscales, sur des impôts, alors qu'en France, on va inventer un système qui est beaucoup plus de solidarité et de démocratie de gestion entre le monde patronal et le monde ouvrier, le monde syndical.
Oui, un système paritaire. Dans l'idéal, dans le principe, les caisses de sécurité sociale devaient être gérées par des syndicats. Le système, en fait, a évolué. Mais au départ, c'était l'idée que les salariés, avec les employeurs, allaient construire un système de sécurité sociale. Dans le programme du CNR, l'expression, c'est un plan complet de sécurité sociale. Et on peut dire que le père de la sécurité sociale, qui est Pierre Larocque, qui avait été à Londres et qui revenait de Londres...
À Vichy aussi, au début de la guerre.
Quelques mois, il a participé à la création des comités d'organisation qui devaient réunir les entreprises et prévoir des programmes de production dans un esprit. Au début, les premiers mois, c'était très ambigu. Pour certains des préparateurs de ce texte, c'était dans l'esprit de défendre les entreprises contre l'exploitation allemande. Cette histoire de la sécurité sociale est à inscrire dans l'histoire aussi économique générale. C'est-à-dire que, paradoxalement, par rapport à ce qui se dit aujourd'hui, la période de l'histoire de France où la croissance a été la plus forte et le chômage le plus faible, c'est celle où l'économie a été la plus étatisée, c'est 1945-75.
Oui, mais avec un système du point de vue social d'équilibre entre patronat et monde syndical ouvrier.
Oui, pour ce qui est des caisses de sécurité sociale, oui. Et ce système-là est entré en grande difficulté, je crois, pour deux raisons. Premièrement, il repose sur le salariat, et donc sur des salaires. Et moins il y a de salaires, plus il y a de chômeurs, moins le système peut tenir. Deuxième élément, il dépend aussi de la demande sociale de soins. Cette demande s'accroît constamment. Et d'ailleurs, elle pousse le progrès médical. Mais il y a un moment où je crois que c'est depuis 1966 que l'assurance maladie est déficitaire. Donc on se trouve confronté à cette situation, on fait appel aux impôts pour combler le déficit, et à ce moment-là, l'État arrive et commence à prendre en main un système qui était conçu pour être paritaire.
Donc à cet égard, vous insisteriez sur une certaine désuétude, probablement malheureuse, de l'équilibre de 1945, issu du programme du CNR aujourd'hui, ce qui légitimerait certains propos disant qu'on ne doit pas en rester à ce même système.
Je crois qu'il est difficile d'espérer pouvoir reproduire à l'identique à 60 ans de distance.
Mais on peut peut-être retrouver les sources d'inspiration, c'est-à-dire celles qui préféraient la solidarité à l'assistance. C'est ça le grand changement.
Les grands principes enfin, me semble-t-il, peuvent demeurer. Bien qu'il n'ait jamais rencontré, on parle de l'unanimité de la résistance, mais dès que la libération a eu lieu, les droites ont repris leur liberté d'expression. Il n'y avait plus besoin d'exprimer une solidarité dans la résistance. Et même s'ils ne représentaient à l'époque que 6% des sièges à l'Assemblée nationale, elles ont tout de suite exprimé leur hostilité aux nationalisations, par exemple. Donc, cette unanimité n'a jamais été totale. Aujourd'hui, l'esprit moyen accepte beaucoup plus ou une plus grande part de libéralisme économique que ce n'était le cas en 1945. Par exemple, si vous regardez aujourd'hui les programmes des partis politiques, pour le Parti socialiste, il n'envisage pas de nationalisation. Le terme est mentionné dans un texte du PS, mais c'est une phrase de nationalisation partielle ou temporaire, dit-on.
Le seul parti. À propos des banques en particulier, de l'aide qu'on leur avait apportée, que nous en parlions tout à l'heure.
Mais tandis qu'en 1945, c'était au cœur du programme socialiste, on peut aussi parler du Parti communiste, qui aujourd'hui encore a déposé des propositions de loi demandant des nationalisations généralisées, alors du secteur bancaire notamment, et du secteur de l'eau et des autoroutes. Mais, si vous voulez, ce n'est pas dans le programme électoral.
Il y avait une certaine faiblesse, on a parfois exagéré cette faiblesse, mais une faiblesse du patronat en 1945. Il y a un mot qu'on prête au général de Gaulle, peut-être imaginaire, mais qui reflète bien probablement une atmosphère. Il aurait reçu une délégation de patrons et il leur aurait dit « Messieurs, je n'ai pas vu beaucoup de vous à Londres. Enfin, après tout, vous n'êtes pas pendus. »
Je ne sais pas s'il a dit tout cela, mais en effet, on rapporte un mot de ce type. C'est certain que dans les nationalisations de 1945, il y a, mais ce n'est pas l'essentiel en termes quantitatifs, une petite partie de nationalisation sanction. Par exemple, la nationalisation des usines Renault.
Là, c'est la part de hasard, en somme.
C'est la contingence, si l'on peut dire.
La contingence qui vient bien à l'intérieur d'un système doctrinal.
Voilà, parce que ce programme du CNR, il est original, mais en même temps, il est très banal. Presque tous les pays libérés ont entrepris des politiques analogues, pas menées aussi loin, mais tout de même très semblables, en Autriche, en Angleterre, en Italie.
Le comparatisme fait toujours du bien.
Et donc c'est le projet d'une époque, c'est pas seulement le projet de la résistance.
Alors nous parlons des nationalisations, nous parlons de la sécurité sociale. Il y a tout un climat que certains ont défini à l'époque, allusion encore à Roosevelt, vous le disiez tout à l'heure, un New Deal social. Avec les comités d'entreprise, avec la liberté syndicale. Sur cela aussi, il faut insister à la lumière des débats de notre contemporanéité.
Les comités d'entreprise étaient une idée très, très, très généralisée à la libération, interprétée de manière évidemment différente. Il y a des régions du côté de Montluçon, de Marseille, où des comités d'entreprise spontanés se sont constitués pour prendre en main les entreprises. Enfin, c'était l'autogestion avant la lettre. Alors de cela, le gouvernement provisoire n'a pas voulu. Et l'ordonnance de création des comités d'entreprise, en fait, casse ces initiatives locales.
C'est un élément de la politique d'ensemble de reprise en main par l'État jacobin d'un certain nombre de leviers de commandes dans l'ordre économique et dans l'ordre politique et militaire.
Voilà, c'était un retour, ce que Maurice Thorez avait appelé le retour à l'ordre républicain.
Et le saint homme.
Et en revanche, alors sur le plan syndical, il y a eu cette, comment l'appelle-t-on, circulaire Parodi, qui a créé ce qu'on a appelé, entre guillemets, la représentativité syndicale.
Du nom d'Alexandre Parodi, qui était le délégué général de Gaulle en France, et à Paris en particulier, au moment de la libération de la capitale.
Voilà, et qui a été un ministre du Travail peu de temps, mais à la libération. Là, il s'agissait évidemment d'éliminer tout le système, l'édifice vichiste, pseudo-syndical vichiste.
La rupture complète.
C'était la rupture complète avec élimination d'organisations créées dans ce cadre.
Le comité d'entreprise est intéressant également à mettre en lumière. Apparition du comité d'entreprise, vieille revendication ouvrière.
Vieille revendication ouvrière dans la mesure où les syndicats ouvriers pensaient pouvoir exercer un rôle de gestion. Sur l'entreprise. D'ailleurs, les tout premiers comités spontanés, notamment dans la région de Montluçon en 1944-1945, s'appelaient comités de gestion. Et l'ordonnance de 1945 ne leur donne pas le pouvoir de gestion, elle leur donne un pouvoir de consultation. Si bien qu'il y a une assez forte déception, mais là où la rupture se marque, c'est à partir du déclenchement de la guerre froide, quand la CGT refuse de faire fonctionner, de participer, si vous voulez, à ces comités d'entreprise, à participer de manière constructive. Si bien que les comités d'entreprise ont souvent été des lieux d'affrontement plutôt que des lieux de coopération. Néanmoins, dans certaines lois, notamment dans la loi nationalisant les entreprises d'électricité, un article permettait aux comités d'entreprise d'avoir ses revenus indexés sur le chiffre d'affaires, ce qui a permis une prospérité certaine.
Alors je voudrais que nous finissions cette émission, cette conversation, Claire Andrieux, en évoquant les efforts concrets d'un certain nombre de résistants pour aller rencontrer la jeunesse de France, la jeunesse des écoles, et leur expliquer, pour le perpétuer, ce qu'était cet esprit du CNR dont nous avons parlé ce matin. Écoutons Raymond Aubrac, grand résistant, celui que, de façon célèbre, sa femme Lucie Aubrac avait fait évader à Lyon. Raymond Aubrac, qui s'exprime à France Inter le 11 mai 2004 et qui évoque précisément ces moments où il est allé dans les écoles pour parler de la résistance.
Il est difficile d'admettre qu'on marche, qu'on régresse, qu'on reparte en arrière et qu'on perde un certain nombre de ses acquis sociaux. Alors, les résistants qui ont vécu cette période, et beaucoup de gens, heureusement, avec eux, ne trouvent pas ça tolérable. C'est un problème de volonté politique, c'est clair et évident. En plus, on est obligé de constater que le pouvoir, une grande partie du pouvoir réel, n'appartient plus aux électeurs et à l'opinion, il appartient pour le moment à un certain nombre de puissances économiques et de puissances financières qui conviendrait de remettre à leur place, comme on l'a fait en 1944. Vous savez, un certain nombre des vieux camarades survivants vont dans les écoles, c'est mon cas. J'y vais quand même deux ou trois fois par mois. Il y a trois jours, j'étais à Saint-Flour, devant 185 élèves de 3e. Les jeunes s'intéressent. Ils s'intéressent et leurs centres d'intérêt ont changé depuis une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années, les jeunes s'intéressaient aux coups, aux combats, aux embuscades, à tout ce qui était style Far West un peu. Et bien maintenant, ils nous posent des questions, même les jeunes de 3e, les gosses de 14-15 ans, sur les motivations. Ils demandent pourquoi avez-vous fait ça ? Pourquoi êtes-vous resté quand c'est devenu plus grave ? Et quand on parle avec eux, et quand on leur demande pourquoi ils posent ces questions, ils répondent tranquillement, mais pour nous, l'avenir est compliqué. On ne sait pas très bien ce qui va nous arriver. Ce n'est pas tellement facile d'être jeune en 2004. C'est beaucoup plus difficile que d'être jeune en 1944 ou 45. Et alors, ils ont une inquiétude. On leur assène constamment la menace du chômage, la nécessité d'avoir de l'argent. On crée chez eux tout un tas de besoins dont ils reconnaissent volontiers de temps en temps qu'ils sont faux et qu'ils sont superflus. Et il n'y a pas de programme mobilisateur pour les jeunes. Et ça leur manque.
On est là en 2004, c'est une archive de France Inter, là-bas si j'y suis, le 11 mai 2004. C'est le moment où un certain nombre de personnalités de la résistance, à l'occasion du 60e anniversaire de la libération, fait un appel pour garder l'esprit précisément du CNR, avec les noms notamment de Lucie Aubrac, de Raymond Aubrac que nous venons d'entendre, d'Henri Bartoli, Daniel Cordier, Philippe de Chartres, Maurice Criégel-Valrimont, Georges Segui, Germaine Tillon, Jean-Pierre Vernant, que nous avons également entendu, et bien sûr Stéphane Hessel. Perpétuation ou non-perpétuation de cet esprit, il y a quand même une grande différence, me semble-t-il. C'est évidemment que la France est maintenant sous le grand vent de la concurrence européenne, la construction européenne, qui a apporté la paix, et d'autre part la mondialisation plus récente, ce qui peut-être peut limiter, même si on recherche les continuités, entre l'esprit de 44, entre le programme du CNR et aujourd'hui, avec son application possible, ce qui peut-être, il faut être juste pour finir, limite le parallèle.
Raymond Aubrac parlait de l'absence de grands programmes mobilisateurs pour la jeunesse. Mais cela est vrai que si on regarde l'état des forces politiques, la gauche et la droite ne sont plus si dissemblables qu'elles l'ont été. Quand Raymond Aubrac parle de remettre à leur place les puissances financières, Il faut rappeler que lorsque la gauche a été au pouvoir entre 1981 et 2002, la gauche a autant dénationalisé que la droite dans la même période.
En gros, il y a quand même eu 4 ans de droite.
Ah oui, pardon, après 83. Oui, il faut partir de 83.
Il y a eu quand même 4 ans de droite au milieu entre 1993 et 1997.
Oui, mais l'historien Patrick Fridançon a montré que à la date où il écrivait en 2004, la gauche avait autant dénationalisé que la droite, donc en partant de 1984. Et il y a donc là, non pas un lien d'équivalence, mais il y a un rapprochement qui empêche justement le jeu le débat d'être parfaitement clair entre la gauche et la droite en ce moment. Et probablement, ça rend difficile l'expression d'un programme au contour bien précis. Et puis aussi, remettre à leur place les puissances financières, mais quelle est leur place ? Puisque si on les gêne à tel endroit, elles iront dans un paradis fiscal, elles iront en Chine, encore ailleurs. Et là, la mondialisation, finalement, rend extrêmement difficile la nationalisation. Et aussi par le biais des délocalisations. Et finalement, on se pose la question, mais où est la nation ?
Oui, mais la grande crise n'en a pas moins poussé les dirigeants de nations majeures aujourd'hui à une interrogation sur la possibilité d'influencer le jeu du marché en termes financiers, en termes politiques.
Non, c'est pas fini. Il y a aussi le rapport du Congrès publié récemment sur la crise financière aux États-Unis qui déplore très nettement la dérégulation.
Eh bien, ce sera votre dernier mot, ou quasiment, parce que vous allez peut-être réagir à la mention que je vais faire de vos ouvrages. D'abord, je rappelle celui qui était directement consacré à notre sujet, c'est-à-dire le programme commun de la résistance, des idées dans la guerre, paru aux éditions de l'Érudit, 1984. Il y avait une préface de notre cher maître René Raymond qui louait votre sagacité. Donc je me félicite de me faire son écho. Je signale aussi vos contributions au dictionnaire historique de la résistance, sous la direction de François Marcot, paru dans collection Bouquin Robert Laffont, 2006. Avec notamment vos articles sur la résistance dans le siècle, sur la résistance et la libération, et précisément sur le programme de la résistance. Et puis le dictionnaire de Gaulle, que vous avez dirigé avec Philippe Brault et Guillaume Piketty, un ouvrage vraiment remarquable, paru chez Laffont en 2006. J'ajoute enfin que vous avez dirigé avec Gilles Lebeguec et Daniel Tartakovsky, un livre intitulé « Association et champ politique, la loi de 1901 à l'épreuve du siècle », aux publications de la Sorbonne en 2001. Il y a un lien avec notre sujet d'aujourd'hui ?
Oui, il y a un lien parce qu'on peut analyser les mouvements de résistance comme des associations qui simplement sont clandestines et dans un contexte particulier. Et ces associations, on peut considérer qu'elles ont joué un rôle de relais politique dans une période où les partis politiques ont été dissous ou paralysés par une situation d'occupation et de répression des libertés. Ces associations ont joué ce rôle de relais, et c'est par ces résistants que le programme du Conseil national de la résistance a pu déboucher. Ce n'est pas les partis, même clandestins, qui auraient pu eux seuls faire le programme. Ce sont les associations qui ont obligé les partis à s'entendre.
Vous retrouverez toutes ces informations et les références des documents sonores qui ont été utilisés sur le site internet de France Culture, à la page Concordance des temps, où vous pourrez également réécouter, télécharger cette émission et réagir en ligne. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, réalisée par Patrick Molinier, avec la collaboration de Meryl Moneghetti et aussi de Jeanne Guéroux, de Jérôme Bonnetin, à la prise de son Emmanuel Morse-Duncan, et pour les archivinas, Catherine Louis.